Bienvenue sur BetaFinch, votre podcast d'analyse de résultats financiers générés par intelligence artificielle. Je suis Alex, et avec moi, comme toujours, mon collègue Jordan. Comment ça va?
Salut Alex. Ça va très bien. Prêt pour plonger dans les résultats de Coca-Cola?
Absolument. Et avant de commencer, un petit avis important pour tous nos auditeurs. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement.
Bien dit. Maintenant, parlons de Coca-Cola. C'est un trimestre vraiment impressionnant pour la boisson gazeuse la plus célèbre du monde.
Exactement. Commençons par les chiffres. Coca-Cola a rapporté une croissance des revenus organiques de 6% au deuxième trimestre, ce qui est vraiment solide. Et le volume des cas d'unité a augmenté de 5%.
C'est particulièrement intéressant quand on regarde sur 2 ans. La croissance moyenne du volume sur 2 ans reste à 2%, ce qui montre que Coca-Cola gère un environnement de consommateurs vraiment instable.
Oui, et ça nous amène à un point crucial que les dirigeants ont soulevé. Le contexte économique global est très fragmenté. Vous avez des poches de force, mais aussi des zones où les consommateurs subissent des pressions inflationnistes.
Exactement. Et regardez comment ils ont réagi. Leur bénéfice par action comparable a augmenté de 11% pour atteindre 0,97 $. Et remarquablement, ils ont réussi à étendre les marges tout en continuant à investir dans l'entreprise.
Parlons des marges, car c'est une histoire importante ici. La marge brute comparable a augmenté d'environ 120 points de base. La marge opérationnelle, 90 points de base. C'est impressionnant dans le contexte d'expansion continue.
Et le flux de trésorerie disponible? 6,9 milliards de dollars. C'est en hausse par rapport à l'année précédente. Avec un ratio d'endettement net de 1,4x l'EBITDA, bien en dessous de leur objectif de 2 à 2,5x, Coca-Cola a vraiment une forte position de bilan.
Ce qui nous amène aux indications mises à jour pour l'année complète. Coca-Cola anticipe maintenant une croissance des revenus organiques d'environ 5% pour l'année entière, ce qui est franchement à l'extrémité supérieure de leur guidance précédente.
Et pour les bénéfices par action comparables excluant les acquisitions et cessions? 7 à 8% de croissance, neutralisée par les devises. Cela s'ajoute à l'impact des devises qui devrait être un avantage de 3 points pour l'année complète.
Maintenant, j'aimerais vraiment souligner quelque chose qui s'est démarqué dans cet appel. La Coupe du Monde FIFA. C'est beaucoup plus qu'une activation marketing. C'est devenu un cas d'école de la stratégie de Coca-Cola pour devenir plus centré sur le consommateur.
Oh oui. Ils ont collecté 25 millions de points de données propriétaires de première partie. Ils ont généré 9 milliards de vues via les activations numériques et les réseaux sociaux. Mais voici le meilleur, un taux de présence de plus de 80% au lieu d'événements. C'est un record pour la Coupe du Monde FIFA.
Et écoutez, le volume de Coca-Cola a augmenté de 5% pour le trimestre. C'est la croissance la plus forte en 17 ans en dehors de la reprise post-Covid. Le PORAD a augmenté de 8%.
Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est comment ils ont distribué plus d'un milliard d'autocollants de joueurs Panini dans plus de 40 marchés. C'est une innovation brillante qui combine marketing traditionnel et engagement numérique.
Absolument. Et ils utilisent ces données pour les futures campagnes. Ils parlent maintenant d'autres moments clés, comme Coca-Cola et les repas, Powerade et les moments de performance.
Voyons aussi la performance régionale. L'Amérique du Nord a augmenté de 3% en volume, guidée par le succès de Coca-Cola, Fairleaf, Powerade, et oui, même le Monsieur Pib que Coca-Cola a relancé. Ce dernier a augmenté de plus de 20%.
C'est un détail intéressant. Monsieur Pib était en quelque sorte un produit zombie, et ils l'ont ramené avec une proposition plus audacieuse, plus de caféine, plus de saveur de cerise. Et les consommateurs réagissent.
En Amérique latine, ils ont également gagné une part de valeur et de volume, réalisant une croissance équilibrée du chiffre d'affaires. Et en Asie-Pacifique, malgré une baisse du résultat opérationnel comparable, la croissance du volume était présente dans tous les secteurs.
Maintenant, parlons de ce qui peut être la question la plus importante d'un point de vue commercial. Coca-Cola a remporté le contrat Marriott après 34 ans sans relation. C'est énorme.
C'est vraiment une victoire importante. Et le PDG Enrique Braun a dit quelque chose de vraiment révélateur. Il a dit qu'ils avaient perdu ce contrat autrefois parce qu'ils n'étaient pas assez centrés sur le consommateur et le client. Maintenant, ils l'ont récupéré pour exactement cette raison.
Et ce n'est pas qu'un petit contrat. Cela signifie que le portefeuille complet de Coca-Cola, y compris Monster Energy, est maintenant disponible dans tous les Marriott du monde.
Ce qui montre vraiment leur approche plus large. Coca-Cola parle de trois priorités stratégiques, devenir encore plus centré sur le consommateur, rester constructivement mécontent, et placer le numérique au cœur de chaque connexion.
Et regardez Fairleaf. Après l'incident que nous avons vu au début de l'année, la majorité des opérations de production ont repris. Pas d'impact sur les résultats du deuxième trimestre, pas d'impact attendu en seconde moitié. La marque a augmenté de 18% au premier trimestre.
Ce qui est impressionnant en soi. La disponibilité en détail n'a pas été affectée, et il continue à augmenter la capacité avec l'usine Webster.
Maintenant, il y a aussi une question importante concernant le cas fiscal à l'IRS. Coca-Cola a présenté des arguments oraux devant la Cour d'appel du circuit du 11e à la fin du mois de juin. La chronologie d'une décision ? Inconnue pour l'instant, mais potentiellement entre 6 et 12 mois.
C'est une grande histoire en arrière-plan ici. Si Coca-Cola gagne, c'est un gain potentiel important. Si elle perd, cela pourrait être une charge importante. Mais ils ont clairement confiance en leur position.
Et un dernier point vraiment important pour les investisseurs. Coca-Cola parle de leur algorithme de croissance à long terme, 4 à 6% par an. L'objectif clairement ambitionné est d'être à l'extrémité supérieure de manière durable.
Et la façon dont ils le font, c'est en ayant plus de degrés de liberté dans le portefeuille. Plus de marchés, plus de marques, plus de catégories contribuant à la croissance. Ce n'est pas juste des prix.
Exactement. Et c'est crucial car cela signifie qu'ils ne sont pas dépendants d'une seule source de croissance, comme nous l'avons vu avec des compétiteurs par le passé.
Alors, que devraient penser les investisseurs de tout cela?
Eh bien, voici le truc. Coca-Cola livre. Ils ont dépassé les attentes, augmenté la guidance et démontré qu'ils peuvent naviguer dans un environnement de consommateurs vraiment difficile. L'activation de la Coupe du Monde et la récupération du contrat Marriott montrent une entreprise qui innove stratégiquement.
Les marges s'élargissent, les flux de trésorerie sont solides et le bilan est fort. C'est une machine bien huilée. Et franchement, dans un environnement macro incertain, c'est rassurant.
Mais il y a des points d'interrogation à surveiller. La Chine reste prudente. Les consommateurs à revenus plus faibles subissent toujours des pressions. Et il y a ce cas fiscal en suspens. Ce ne sont pas des problèmes critiques, mais des choses à surveiller.
Et pour finir, le différentiel de Coca-Cola ne change pas vraiment. C'est une marque mondiale bien aimée qui s'adapte à l'environnement local. Et dans cet appel, ils ont vraiment montré qu'ils s'améliorent dans l'exécution de cette stratégie.
Bien dit. Avant de nous quitter, et rappelez-vous, tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable.
Merci de nous avoir écoutés sur Beta Finch. C'est Jordan et Alex, et nous vous verrons la prochaine fois.
À bientôt. Dièse résumé du script. J'ai créé un script de podcast entièrement en français d'environ 1,100 mots qui couvre. Coche épaisse blanche point financier clé, croissance des revenus de 6%, croissance du BPA de 11%, expansion des marges, guidance mise à jour. Coche épaisse blanche mise à jour stratégique, trois priorités de Coca-Cola, succès de la Coupe du Monde FIFA, récupération du contrat Marriott, performance de Fairleaf. Coche épaisse blanche moment QEA, performance régionale, stratégie d'Asie-Pacifique, cas fiscal IRS, innovation des produits. Coche épaisse blanche implication pour les investisseurs, position solide, flux de trésorerie robuste, bilan fort, environnement à surveiller. Le script maintient un ton conversationnel naturel entre Alex et Jordan, avec les deux avis légaux obligatoires en français intégrés de manière naturelle.